Merci, monsieur. On a chanté à l'instant le Notre Père et il y a une parole qui m'a marqué et que je vais utiliser pour rebondir sur ma prédication. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu au ciel, on imagine assez aisément comment ça se passe, même si on n'y est pas. Dieu ordonne et la chose s'accomplit, instantanément. Et si, lorsque le Seigneur Jésus nous donne cette prière, il prend justement pour modèle la volonté de Dieu au ciel, c'est qu'il met en lumière, on pourrait appeler un dysfonctionnement, de dire que, eh bien parfois la volonté de Dieu dans nos vies, même nous en tant que croyants, parfois elle ne se fait pas aussi rapidement que ce que l'on aurait pu espérer, même que ce qu'on pourrait aimer. On voudrait pouvoir obéir mieux à Dieu, pouvoir suivre sa voie, discerner sa voie plus rapidement, plutôt que de patauger parfois dans là où on en est, de ne pas réussir à avancer. Donc cette parole m'a touché, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme je vous l'ai dit, on va prendre le deuxième chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens, qui dans un sens touche aussi cette parole, la volonté de Dieu sur la terre et particulièrement la volonté de Dieu dans l'Église. On va parler ce matin ensemble de joie. C'est aussi, Patrick, plusieurs fois tu as fait ressortir ce thème de la joie dans ta présidence, et le thème de l'unité qui reviennent beaucoup dans ce passage. La joie est omniprésente dans cette lettre que Paul a écrite aux Philippiens. C'est peut-être, si je peux me permettre, la lettre la plus positive que Paul ait écrite et que nous avons pu avoir pour nous aujourd'hui aussi. C'est une lettre qui est donc très positive, qui traite la question surtout de la joie. Où trouver notre joie? Comment mener une vie joyeuse? Une aspiration, je pense, qui nous touche tous, non seulement nous, mais aussi nos contemporains, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes tous en quête de la joie, ou je pourrais dire autrement, en quête du bonheur. Sur quoi pourrait s'appuyer notre joie? Sur quoi peut s'appuyer notre bonheur? Notre monde propose toutes sortes de choses pour répondre à cette aspiration, à ce besoin que nous avons d'être dans la joie. Et le Seigneur aussi nous donne des choses pour permettre que nous puissions nous approcher de lui, connaître la joie qui vient de lui seul. Une joie qui n'est pas passagère, qui n'est pas éphémère, qui dure et que rien ne peut renverser, qui s'appuie sur des fondements plus solides que notre univers. Vivre la vie avec Dieu, c'est plus qu'une jolie formule vide de concret, c'est presque, on pourrait dire, un mode de vie, une aspiration profonde du cœur de vouloir marcher dans notre monde selon des vérités invisibles, des choses que l'on ne voit pas, mais qui pourtant sont bien réelles et dont nous pouvons voir de façon très concrète les conséquences. Lorsque nous voyons Dieu agir, eh bien on le reconnaît, on le voit dans les grandes choses comme dans les petites aussi. Dieu agit pour nous dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là pour nous le sujet aussi de notre joie. Comme je l'ai dit, cette lettre de Paul aux Philippiens est très positive, mais malgré tout, même si cette église a été exemplaire à plus d'un titre, elle connaissait, elle aussi, des luttes cachées. Il y avait aussi des problèmes dans cette église, comme dans, je pense, c'est mon opinion, toutes les églises. Si on me dit un jour qu'une église est parfaite et qu'il n'y a aucun problème, je m'inquiéterais beaucoup. Mais c'est aussi une des réalités de l'église. C'est aussi là que nous voyons que, eh bien, nous sommes bien humains, il y a encore parfois bien des problèmes qui peuvent être au milieu de nos assemblées. Nous avons en vue la cité céleste vers laquelle nous sommes en chemin. Et bien parfois, lorsque nous voyons notre vécu d'église, on peut être légitimement déçu. Et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise déception. Mais c'est toute la question de réaliser que nous ne sommes pas encore auprès du Seigneur. Nous ne sommes pas encore dans cette patrie céleste qui, elle, est parfaite en toutes choses. Nous sommes aujourd'hui encore bien de ce monde, les pieds sur terre, et nous avons à gérer toutes sortes de problèmes, grands ou petits. Nous avons besoin d'apprendre à nous aimer les uns les autres, besoin d'apprendre à nous supporter les uns les autres, supporter dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et nous avons besoin de grandir dans l'affection mutuelle, dans la joie et dans l'unité. On va commencer à lire notre passage, donc le deuxième chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens. Et j'aimerais déjà qu'on puisse lire ensemble les quatre premiers versets. C'est donc Paul qui parle. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et on s'arrête déjà là dans la parole de Dieu, pour ces quatre premiers versets, où Paul nous lance un appel à l'unité. Il le lance à cette église de Philippe et il nous le lance aussi à nous aujourd'hui. Et je trouve intéressant de voir sur quoi il se base pour lancer cet appel à l'unité. Il va utiliser quatre arguments, quatre socles sur lesquels il veut s'appuyer pour amener l'église à rechercher l'unité et à la conserver, à grandir dans cette unité. Il nous dit en premier, s'il y a quelque consolation en Christ. S'il est possible donc de trouver en Christ une consolation pour nos vies, lorsque nous sommes dans la tourmente, lorsque nous souffrons, lorsque, eh bien, même au sein de l'Église, nous pouvons rencontrer des difficultés, Paul nous donne ici déjà un premier indice, nous pouvons trouver la consolation en Christ. Même si l'on est en droit de pouvoir s'attendre à trouver aussi de la consolation dans l'Église, eh bien il y a parfois des moments où ce n'est pas le cas. Pas forcément parce qu'on ne veut pas nous consoler, mais parce que parfois peut-être, en tout cas je parle pour moi, parfois on est inconsolable. Même face à toute l'affection que les autres peuvent nous porter, eh bien parfois on n'est pas consolable. On est dans la tristesse et peu importe ce que font les autres, ça ne nous aide pas. Aussi bien intentionnés peuvent-ils être. Et pourtant, en Christ, nous pouvons trouver une consolation pleine et entière. Une consolation qui ne défaille jamais et qui répond aux aspirations de notre cœur. Paul nous donne aussi un deuxième socle. S'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, selon certaines versions que l'on pourra avoir. S'il y a un tant soit peu de soulagement dans l'affection que nous pouvons avoir les uns envers les autres. C'est une réalité sur laquelle Paul se base ici. Nous sommes tous d'accord de dire que lorsque deux personnes s'aiment, eh bien on peut trouver du soulagement, malgré tout, dans les situations difficiles. Ensuite, Paul nous donne un troisième indice. S'il y a quelque union d'esprit, l'union de l'esprit, l'union qui est donnée par notre Dieu dans le cœur de tous les croyants. Le Seigneur nous fait le grand cadeau de nous donner son esprit pour nous qui acceptons de nous placer sous le sacrifice de Jésus. Et c'est là une bonne motivation pour chercher aussi l'unité. C'est une bonne motivation parce que, en réalité, nous sommes déjà unis. Que l'on le veuille ou non, que cela se voit ou non, les croyants sont unis par l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit qui est répandu dans tous les croyants. Et il y a déjà cette union qui existe. Et si elle existe, cela est aussi une motivation pour nous pour grandir dans cette unité. Et enfin, un quatrième socle qu'il nous donne, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. La compassion et la miséricorde, le principe d'essayer de comprendre, de saisir la souffrance des autres, faire miséricorde, de donner une sortie, une échappatoire lorsqu'on se trouve dans une situation difficile, ce sont tous des choses que nous pouvons aussi connaître au sein de l'Église. Et c'est une bonne motivation pour nous pour rechercher l'unité, pour rechercher aussi la joie que Paul aussi veut nous communiquer lorsqu'il nous dit « Rendez ma joie parfaite, Ayez ce même sentiment, ce même amour, cette même âme et cette même pensée. Paul nous demande donc, pour faire sa joie à lui, en tout cas pour les Philippiens, de marcher d'un même pas, de cultiver ensemble l'esprit de l'unité. Et peut-être que lorsque vous lisez ces mots, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, peut-être que cela vous fait peur. Moi, d'une première lecture rapide du texte, on pourrait effectivement prendre peur et puis se dire, mais est-ce que Paul cherche vraiment à ce que nous soyons tous les mêmes, exactement les mêmes, la même façon de penser, la même façon d'agir, la même façon de réfléchir? Et vous comprenez bien que ce n'est pas ce que Paul veut pour nous. Dans cette unité à laquelle Paul nous appelle, il n'est pas question d'uniformité, d'être tous identiques, tous faits dans le même moule. De toute façon, ce serait bien impossible. Nous sommes tous différents, nous avons tous un vécu différent. Nous ne venons pas du même milieu, du même contexte, et cela nous a façonnés. Et non pas, Paul ne veut pas que nous renions tout ce qui fait que nous sommes différents les uns des autres, mais Paul veut bien nous faire réaliser que nous avons besoin de marcher ensemble et, si je peux le formuler ainsi, de laisser parfois de côté des choses qui sont secondaires. Nous n'avons pas forcément tous la même approche de ce qu'est l'amour fraternel, comment est-ce que ça doit se vivre les uns envers les autres au sein de l'Église. Nous n'avons peut-être pas tous la même façon de concevoir même ce qu'est l'Église, qu'est-ce qu'elle devrait faire, quel est son but. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à marcher ensemble pour nous centrer sur ce qui est vraiment essentiel. Nous ne pouvons évidemment pas simplement dire « chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut », ce n'est pas de l'unité non plus, mais nous avons besoin d'avoir des choses qui nous rassemblent. Et ce qui nous rassemble en premier, c'est le Seigneur Jésus. Et un petit peu plus loin, on verra l'Évangile, la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ et que nous avons à partager aux autres. C'est là peut-être le premier point à travailler pour nous, pour que nous puissions grandir dans l'unité en Christ. Le principe de laisser de côté les choses secondaires, qui parfois pour nous peuvent être importantes, induit forcément une question d'humilité. Une telle pensée, en fait, ne peut pas aller avec de l'orgueil. Tout cela ne peut pas avoir sa place dans nos relations fraternelles et dans nos relations au sein de l'Église. Et c'est ce que Paul nous dit ici, en nous disant « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Tout ce qui pourrait être la recherche d'une gloire personnelle, que je sois considéré au sein de l'Église ou au sein de la société, que je m'intéresse surtout à mes aspirations propres, ce qui pour moi est important, tout cela ne peut pas avoir sa place entre nous. Nous avons besoin de laisser ces choses de côté pour nous concentrer sur l'essentiel. Et c'est cela qui va nous permettre de grandir dans l'unité. À l'inverse donc de l'orgueil, Paul nous appelle à l'humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considérez les intérêts des autres et non pas seulement les vôtres. C'est une parole qui est difficile pour nous à entendre, non pas qu'on n'est pas d'accord avec elle, mais qu'elle est difficile à mettre en pratique. Quand il y a quelque chose qu'on a à cœur, quelque chose qui n'est pas forcément mauvaise, une chose qui est bonne et que l'on voudrait voir accomplie dans l'Église, eh bien ça peut parfois être difficile de réaliser que, en fait, ça ne correspond pas à l'Église. Ce n'est pas forcément ce dont l'Église a besoin, même si c'est une bonne chose, même si moi je l'apprécie beaucoup, eh bien le Seigneur me demande de le mettre entre parenthèses. Parce que mon bien propre ne passe pas avant le bien de l'Église et l'avancée de l'Église. Parce que cela peut nuire à l'unité du corps de Christ. Paul nous demande donc de mettre les choses à leur place, de bien réaliser que ce qui compte, c'est le Seigneur Jésus et l'avancement de la bonne nouvelle. On va avancer dans notre texte, je reprends la lecture au verset 5 et on va lire jusqu'au verset 11. Où Paul va nous donner un exemple concret pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il vient de nous dire. Je vous lis. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Comment réussir à grandir dans cette unité à laquelle Paul nous demande ? Comment réussir à mettre de côté nos aspirations personnelles profondes, qui peuvent être bonnes, mais qui parfois vont desservir l'Église plutôt que de la servir ? Comment aller réussir à aller contre notre propre nature, qui, elle, va nous pousser à l'orgueil plutôt qu'à l'humilité ? Comment réussir à accomplir ce que Paul nous demande ? Ici, Paul nous donne un exemple, celui de Jésus lui-même, comme étant pour nous une source de motivation. Et Paul part de ce constat, les sentiments de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus de toute éternité était l'égal de Dieu le Père. Il était avec lui, il partageait sa gloire, et il a accepté de se dépouiller lui-même. Lui qui était si grand, si glorieux, étant bien supérieur à l'humanité, il a choisi d'obéir au Père. Il a décidé d'obéir en prenant une forme humaine, une forme de serviteur. Et non seulement cela, mais il s'est attaché toute sa vie durant à obéir à son Père, obéir à la voix de Dieu le Père. Et encore, non seulement cela, mais il a accepté d'aller encore plus loin dans l'humiliation en acceptant la mort sur la croix. Une mort qui, aujourd'hui pour nous, nous paraît bien lointaine, on ne pratique plus les mises à mort de cette façon, mais qui, pour l'époque, mourir sur une croix, c'était une honte. C'était une mort qui était réservée à la pire des canailles, si je peux le dire comme ça. C'était une mort qui n'était pas digne. Et pourtant, c'est la mort que le Seigneur Jésus a accepté d'endurer pour nous, par amour pour nous. Et Paul nous donne malgré tout les conséquences de cette humiliation, les conséquences de ce choix qu'a fait le Seigneur Jésus. Si Christ s'est humilié jusqu'au bout pour l'humanité, pour nous, eh bien l'Éternel l'a élevé au-dessus de toute chose. L'humilité précède la gloire. C'est ce que nous voyons tout au long de l'Écriture. C'est ce que le Seigneur fait envers ceux qui ont le cœur humble. Vous savez, l'Éternel brise le cœur des orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur s'attache justement à glorifier, à donner de la gloire à ceux qui savent faire preuve d'humilité. Une grandeur telle qui est donnée au Seigneur Jésus que l'ensemble de la création, l'univers tout entier, les choses visibles et invisibles, ce qui est sur la terre, sous la terre ou dans les cieux, tout, absolument tout, est placé sous la domination du Seigneur Jésus. Notamment parce qu'il a choisi de se dépouiller lui-même et de faire preuve d'humilité. Quand bien même, aujourd'hui, c'est une réalité qui est cachée, si nous posons la question à quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur dans la rue, qui n'a jamais ouvert une Bible, et qu'on lui dit qu'effectivement le Seigneur Jésus domine sur toute chose, eh bien, il nous regardera probablement avec des yeux ronds, en nous disant qu'il n'a jamais entendu parler de ça, et que de façon visible, on voit. C'est pas du tout ce qu'on voit. Malgré tout, encore une fois, nous voyons ici une réalité invisible, dont nous pouvons voir quelques traces dans notre monde, dans le cœur des croyants. Nous pouvons voir déjà que le Seigneur Jésus règne en maître, en toute chose. Quand bien même, donc, c'est une réalité qui, pour l'instant, est cachée, elle n'en demeure pas moins vraie, Et un jour, elle sera reconnue par tous. Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus. Tous reconnaîtront sa seigneurie. Et c'est aussi pour nous le sujet d'un encouragement à faire preuve d'humilité. Parce que lorsque Paul nous demande de renoncer à notre orgueil, de mettre les intérêts des autres avant les nôtres, eh bien c'est quand même difficile à mettre en application. C'est pas très encourageant. On n'a pas forcément envie d'être la serpillière des autres, de tout le monde. Et pourtant ici, avec cet exemple du Seigneur Jésus, Paul nous montre bien qu'aux yeux de Dieu, tout cela ne passe pas inaperçu. Tout cela a un poids éternel. Si nous faisons ce choix de l'humilité, de mettre les autres avant soi-même, le Seigneur aussi se penchera sur nous. Et en son temps, il nous élèvera, que ce soit dans cette vie ou la suivante. Parfois, on voit déjà dans cette vie le Seigneur qui élève certains hommes qui ont été particulièrement fidèles pour leur donner une place particulière dans son plan, mais aussi dans l'éternité. Le Seigneur ouvrira les livres, tout ce qui a été fait dans ce monde sera révélé, et chacun recevra, pour reprendre aussi ce verset, chacun recevra de la part de Dieu la louange qui lui est due. Cet appel donc que Paul nous lance, appel à l'unité, nous demande d'aller plus loin que les choses visibles, que les choses matérielles, mais d'avoir déjà un regard vers notre patrie céleste. Un pied sur la terre et un pied auprès du Seigneur dans les lieux célestes. Parce que nous ne travaillons pas seulement au sein de l'Église, j'entends, nous ne travaillons pas seulement pour les choses d'aujourd'hui, pour l'Église, pour que les programmes puissent fonctionner, pour que l'Évangile puisse être annoncé. Ce n'est pas uniquement pour cela que nous travaillons, mais nous travaillons aussi dans l'attente que le Seigneur nous récompensera et que nous recevrons de sa part à lui toute la louange que nous méritons par rapport à ce que nous avons pu faire pour lui. Voilà donc l'exemple que Paul nous donne en Jésus, celui qui était infiniment plus grand que nous et qui a choisi de se faire plus petit que le plus petit d'entre nous pour mourir sur cette croix, pour nous permettre d'accéder à la grâce et à l'Évangile, pour pouvoir être sauvés de la perdition et sauvés aussi de nous-mêmes, pour pouvoir connaître une nouveauté de relation avec Dieu et pour pouvoir trouver dans l'invisible un appui sûr pour pouvoir vivre dans notre monde la tête haute. Un tel appel nécessite du travail. Tout cela, c'est bien beau, mais ça nécessite du travail et de la persévérance. Et c'est ce que nous allons voir dans la fin de notre passage. On va reprendre notre lecture au verset 12 jusqu'au verset 18. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » On termine ici notre lecture de la parole. Un tel appel à l'humilité, à l'appel de l'unité, tout cela nécessite du travail, ça ne va pas de soi. C'est un petit peu ce que Paul nous dit lorsqu'il nous parle ici de « travailler à votre salut ». Une formule qui, encore une fois, nous surprendra quand on la lit, surtout sous la plume de Paul. Comment ça, Paul, tu nous demandes de travailler à notre salut ? Tout cela pourrait peut-être nous faire penser à le principe de gagner notre salut par les œuvres, mais vous comprenez bien que ce n'est pas là ce que Paul veut dire. Paul nous dit simplement que nous avons besoin de mettre en pratique notre salut. Lorsque nous nous sommes approchés de Christ, ou plutôt lorsque Christ s'est approché de nous, lorsque nous lui avons confié notre vie, lorsque nous avons accepté sa mainmise sur notre vie, eh bien, le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sauvés de la colère, il nous a sauvés de la perdition, mais le plan du Seigneur, pour nous, ne s'arrête pas là. Trop souvent, on peut parfois penser que, eh bien, ce que j'ai à faire, c'est simplement me convertir, donner ma vie à Christ, reconnaître son œuvre, ce qu'il a fait, et après, j'ai mon ticket d'or gratuit pour l'éternité. Après, je peux mener ma vie comme si de rien n'était et continuer à mes occupations que j'avais avant. Vous comprenez bien ici que Paul nous prêche autre chose. Paul nous montre bien ici que nous avons besoin de mettre en application le salut que nous avons gagné gratuitement par Jésus-Christ. Tout cela nécessite du travail. Qui dit travail dit effort. Et qui dit effort dit parfois échec, échec et réussite. C'est la question aussi de la persévérance des saints, à laquelle le Seigneur nous appelle aussi. Nous avons besoin de grandir spirituellement avec le Seigneur. Nous avons besoin de toujours mieux le connaître et de toujours mieux le servir. Deux choses, deux aspects qui vont toujours ensemble. Connaître Dieu et servir Dieu. C'est ce que Paul nous demande ici aussi, c'est ce qu'il a demandé aux Philippiens. Et j'apprécie de voir que Paul nous dit, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Encore une fois, Paul fait le lien entre les choses qui sont visibles et les choses qui ne sont pas visibles. Si on se met à la place des Philippiens, Paul leur écrit cette lettre, il leur demande de travailler à leur salut, de mettre en application l'unité et l'humilité. Il serait bien facile pour les Philippiens de le faire eh bien, lorsque Paul est en visite, lorsqu'il est là, pour montrer à Paul, pour que ça lui fasse plaisir, pour qu'il ait de la joie, parce que Paul souhaite avoir de la joie, c'est ce qu'il nous dit aussi. Ce serait bien facile de le faire uniquement quand il est là. Après tout, Paul, ça pourrait le rassurer, il n'aurait pas à s'inquiéter. Et ce qu'on fait lorsque Paul n'est pas là, bon, c'est pas si important, ça lui fera pas de mal s'il n'est pas au courant. Mais vous voyez que Paul veut aller beaucoup plus loin que ça, parce que le désir de Paul, ce n'est pas simplement que les Philippiens lui fassent plaisir. Ce n'est pas son objectif. L'objectif de Paul, c'est que les Philippiens puissent grandir dans la foi. Qu'ils puissent justement prendre de la distance avec Paul. Parce que Paul, lui, il a eu un appel bien particulier. Il a été au milieu de cette église pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, il est parti. Et s'il leur écrivait des lettres, il ne les voyait que peu souvent. Et pourtant, Paul souhaite que les Philippiens ne bâtissent pas leur motivation simplement sur lui-même, mais encore une fois sur le Seigneur Jésus, pour que les Philippiens puissent mettre en pratique ces choses, que Paul soit là ou qu'il soit absent. Parce que, notamment, il nous dit, c'est Dieu qui produit le bon vouloir et le faire. Dieu rend toutes choses possibles dans notre cœur, par son esprit justement. Il nous rend capables de changer des aspects de notre vie que nous-mêmes, nous ne pourrions pas changer, tout un héritage peut-être que nous pouvons avoir de notre fonctionnement familial, des blessures que nous avons peut-être vécues dans l'enfance. Toutes ces choses, le Seigneur aussi se propose de nous en guérir pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Alors je ne dis pas par là que ça se fait d'un claquement de doigts. Encore une fois, travaillez à votre salut. Ça nécessite du temps, ça nécessite un investissement, des efforts, parfois des échecs, jusqu'à finalement trouver la victoire dans le Seigneur. Paul sait bien, et il veut faire comprendre aux Philippiens que c'est à Dieu en premier que nous avons des comptes à rendre, et pas aux hommes. Quand bien même, pour les Philippiens, Paul était une autorité, quand bien même Paul veillait sur cette église, ils avaient effectivement des comptes à lui rendre aussi, avant toute chose. C'est à Dieu que nous rendons des comptes. Pour la vie que nous menons ici-bas, pour les choses qui sont visibles et aussi les choses qui ne sont pas visibles, lorsque je suis seul dans ma chambre, lorsque personne ne me regarde, eh bien le Seigneur voit. Et j'aurai aussi des comptes à rendre. Et cela n'est pas pour nous la source d'une peur, de dire oh, « qu'est-ce que Dieu va dire de ce que je fais ?» Ce n'est pas ça que je souhaite vous dire. Mais que cela soit simplement une motivation pour nous. Pour nous dire, le Seigneur m'accompagne dans tout ce que je vis, les bons moments comme les mauvais, Et j'aimerais, je veux être digne de son appel. Et lorsque nous avons cette attitude, lorsque nous avons ce désir de demeurer dans l'humilité, eh bien, le Seigneur produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui choisit ce qu'il permet à chacun de pouvoir faire. C'est lui qui donne les dons, c'est lui qui permet que nous puissions faire des choses pour lui, pour son évangile. Si bien que, en fait, ce que le Seigneur nous demande, c'est de la disponibilité, c'est l'attitude de cœur que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas des résultats, il ne nous attend pas avec une fiche de poste pour savoir si nous avons fait tout ce qu'il nous avait demandé. Ce n'est pas comme cela que le Seigneur conçoit la chose. Mais le Seigneur nous demande tout simplement un cœur humble devant lui, une disponibilité, prêt à le servir dans l'humilité. Voilà notre critère d'évaluation, qui est disponible pour tout le monde. Chacun est capable de faire preuve d'humilité et de se rendre disponible pour Dieu. Si bien qu'avec cette attitude, lorsque nous entrons dans le service pour Dieu, eh bien nous n'avons pas besoin d'être sous pression. Nous ne sommes pas sous pression, parce que c'est le Seigneur qui produit en toute chose le vouloir et le faire. C'est lui qui a cette responsabilité de nous utiliser, et entre ses mains, nous sommes un outil. Une image qui est aussi ailleurs utilisée dans l'Écriture, nous sommes un outil entre les mains du Seigneur. C'est lui qui construit, c'est lui qui travaille, et pourtant nous avons notre place. On ne peut pas simplement dire, eh bien, Dieu fera, avec ou sans moi, autant que ce soit sans moi que je puisse me reposer. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Le Seigneur veut nous utiliser. Et c'est notre responsabilité d'être disponible pour lui. Vous remarquerez aussi qu'à la fin de ce passage, Paul fait aussi le lien avec le devoir que nous avons envers notre monde. Si Paul nous demande l'unité, s'il nous demande l'humilité, tout cela n'a pas vocation à rester caché entre nos quatre murs, caché entre nous, pour que nous fassions preuve d'humilité les uns envers les autres, uniquement à l'intérieur de l'Église. Mais Paul aussi nous dit bien, à partir du verset 15, « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. » Il y a aussi cet appel. Dans cette démarche d'humilité, de disponibilité pour Dieu, il y a aussi toujours cet appel pour propager l'Évangile, pour être cette lumière, une lumière qui se définit, si je reprends ce que Paul nous dit, comme étant porteur de la parole de vie. Ce que je pourrais tout simplement dire avec mes propres mots, en disant porteur de l'Évangile, porteur de la bonne nouvelle de Jésus, porter cette parole de vie. C'est cela qui identifie un chrétien, un vrai croyant, quelqu'un qui est porteur de cette parole de vie. Et c'est une responsabilité pour les croyants d'être en témoignage auprès des gens du dehors. Pour Paul, cela fera pour lui le sujet de sa joie, une joie communicative. Si vous relisez les deux derniers versets, Paul veut se réjouir de ce que les Philippiens font. Paul demande aux Philippiens de se réjouir de ce que lui-même fait et qu'ensemble ils puissent se réjouir. Vous voyez qu'il y a ici un cercle vertueux où la joie produit la joie. Lorsque nous voyons Dieu agir dans notre vie et lorsque nous le communiquons aux autres, eh bien cela produira aussi pour eux de la joie et cela aidera chacun d'entre nous à pouvoir connaître cette joie qui vient du Seigneur. Je conclus en disant simplement que Paul n'a pas seulement le désir de sauver des âmes dans son ministère. Il a aussi le désir que les personnes qu'il a eues à charge, les personnes à qui il a annoncé l'Évangile, puissent aussi porter du fruit en abondance devant Dieu. C'est aussi pour cela qu'il est parmi les Philippiens, qu'il garde ce contact avec eux, qu'il leur écrit cette lettre, parce qu'il sait que l'enjeu est de taille. Et j'aimerais terminer en vous lisant un autre verset, une page après dans ma Bible, dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, et au verset 28 et 29, Paul est en train de parler du Seigneur Jésus, et il nous dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je vais simplement terminer par la prière.